J'ai fait avec la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, un véritable tour d'horizon des dossiers qui préoccupent le secteur actuellement. L'occasion était belle aussi pour souligner le mois de la sensibilisation à l'agriculture.
Madame Bibeau, bonjour.
Bonjour.
Madame Bibeau, tout d'abord, c'est le mois de la sensibilisation à l'agriculture canadienne et c'est quelque chose, je pense, que vous considérez comme important parce que, semble-t-il, malheureusement, il y a encore bien des gens qui ne sont pas sensibilisés vraiment à ce qu'est notre agriculture et notre agroalimentaire.
Oui, je pense que beaucoup de Canadiens tiennent pour acquis le fait que nos épiceries sont toujours bien pleines et ne réalisent pas tout le travail qui se cache derrière chaque aliment qu'on mange. Et si la COVID nous a apporté quelque chose de bon, bien, c'est probablement d'en avoir pris conscience un peu de cette réalité et du fait que nos producteurs, productrices agricoles et tous les travailleurs de l'alimentation sont des travailleurs essentiels.
Donc, vous allez soutenir pendant le mois de mars là, diverses initiatives là, justement pour cette sensibilisation à l'agriculture.
Oui, donc cette semaine, c'était une belle occasion pour faire des visites de fermes virtuelles et de pouvoir se faire expliquer quelle est la réalité d'un producteur d'œufs de consommation ou d'une productrice laitière et d'inviter aussi les jeunes qui sont en classe à être curieux pour découvrir c'est quoi l'agriculture. Et c'est pas juste le travail à la ferme aussi, il y a plein de métiers, de professions qui se cachent derrière le secteur de l'agriculture. On peut penser aux agronomes ou aux chercheurs. Ici, dans ma région, on a le centre de recherche de Lennoxville qui va faire des recherches sur l'alimentation des animaux pour leur santé, d'une part, et aussi pour l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Donc, il y a vraiment beaucoup de carrières qui sont associées au secteur agricole.
Bien sûr, on peut espérer qu'il y a bien des gens qui s'orientent dans ce domaine-là. Un domaine qui, par contre, fait face à des difficultés, et ça, tout particulièrement, la dernière année nous l'a démontré. Et si on regarde ça un petit peu, là, la dernière année, à cause de la pandémie, là, la saison de culture s'en vient, saison 2021. Est-ce que l'expérience de 2020 va nous éviter bien des problèmes cette année?
Bien, je pense que vous faites référence au fait qu'on a tellement besoin des travailleurs étrangers. Sur nos fermes, particulièrement, on parle d'une soixantaine de travailleurs étrangers temporaires qui viennent passer la saison à la ferme. Et il y en a d'autres aussi qui sont dans nos usines de transformation alimentaire. Et on voit que dans ce secteur-là, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Alors, pour répondre à votre question, oui, on a tiré beaucoup de leçons de l'année passée parce qu'il a fallu vraiment réagir rapidement au niveau de tous nos processus d'immigration, de permis de travail, l'accueil des travailleurs, ensuite de ça, la période de 14 jours d'isolement obligatoire à la ferme parce que, bon, d'abord et avant tout, on veut protéger la santé des Canadiens. On veut aussi bien traiter nos travailleurs dans la dignité aussi et faire en sorte qu'ils soient aptes à travailler parce que c'est vraiment un enjeu de sécurité alimentaire aussi.
Vous avez dit une soixantaine de travailleurs. En fait, c'est une soixantaine de milliers.
Oui, une soixantaine de mille au Canada, oui.
D'accord. Est-ce que les agriculteurs vont pouvoir bénéficier encore cette année du 1 500 $ qui était alloué pour chacun des travailleurs reçus, là?
Oui, absolument. On a l'intention de maintenir ce programme-là aussi longtemps qu'il y aura l'obligation de faire le 14 jours d'isolement avant de pouvoir commencer à travailler. Parce qu'évidemment, ça veut dire pour nos producteurs, pour les employeurs, de mettre en place certaines mesures additionnelles au niveau de l'habitation, du logement des travailleurs. Et ça veut dire aussi 2 semaines qui ne sont pas travaillées, mais qui sont payées. Alors, c'est notre façon d'appuyer les producteurs avec un montant de 2 500 $ pour absorber ces dépenses.
On parle beaucoup des fermes. Bien sûr, il y a eu des problèmes réels, là. Ça semble s'annoncer mieux cette année. Par contre, il y a du côté de la transformation, vous en avez glissé un mot, la transformation alimentaire, on a besoin souvent de travailleurs à l'année. C'est souvent moins saisonnier et donc on souhaiterait qu'on puisse engager davantage de travailleurs étrangers d'une part, mais aussi que l'on puisse faire venir des travailleurs qui deviendraient assez rapidement des résidents permanents du Canada. Ça, est-ce que vous êtes favorable à ça?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à mettre en place des projets pilotes, entre autres dans le sud de l'Ontario. Il y en a déjà qui sont commencés pour pour le secteur des serres et des champignons. On a aussi un autre projet pilote dans l'Atlantique aussi. Alors oui, on a de l'ouverture par rapport à de tels programmes d'immigration. Bon, c'est sûr qu'il faut avancer au même rythme que le gouvernement du Québec dans ce projet-là. Mais absolument qu'on a de l'ouverture parce qu'on reconnaît le besoin, la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la transformation alimentaire. C'est vraiment criant en ce moment.
Et entre-temps, est-ce que vous êtes prête à proposer ou à pousser l'idée au sein du gouvernement qu'on puisse faire grimper de 10 à 20 le pourcentage d'employés étrangers là, qui viendraient se joindre aux équipes de travail ici là?
C'est quelque chose qu'on discute en ce moment absolument et encore une fois, j'aimerais bien avoir l'appui du gouvernement du Québec dans cet objectif-là, mais c'est quelque chose qu'on considère effectivement.
Si on passe en revue quelques dossiers là, qui sont assez d'actualité quand même dans le monde agroalimentaire, là, le secteur se porte assez bien globalement. Ça, c'est le diagnostic, là, le constat que vous faites vous-même. Malgré les problèmes, le secteur agroalimentaire se porte bien au pays?
Oui, bien quand on regarde les chiffres en termes de résultats économiques, finalement l'année 2020 a été excellente. On a battu, en fait, c'est notre meilleure année en termes d'exportation, 74 milliards de dollars. Cela étant dit, il faut reconnaître que nos producteurs ont dû vivre avec énormément d'imprévus tout au long de l'année. Ça a été une année difficile pour eux, évidemment avec la COVID, la question des travailleurs, les usines de transformation fermaient ou ralentissaient leur production. Ça voulait dire qu'on garde les animaux plus longtemps à la ferme. Ajouter à ça certains partenaires commerciaux importants qui manquaient de prévisibilité. Et bon, la mère nature et les changements climatiques qui s'ajoutent à ça. Donc, c'est un métier extrêmement risqué que d'être producteur agricole. Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne année. C'est sûr qu'il y a certains secteurs dans certaines régions qui ont eu des moins bonnes années. Ça, je le reconnais tout à fait et c'est pour ça qu'on a des programmes de gestion de risque pour aider ceux qui pourraient avoir des mauvaises années au travers.
Et parlant de partenaires commerciaux qui sont peut-être un peu capricieux, un peu difficiles, un peu imprévisibles, comme vous disiez, la Chine, on peut, et ça, c'est, ça devient peut-être un peu prévisible, on peut s'attendre à une réaction, encore une fois, pas très favorable au Canada de la part de la Chine, là, à la suite du récent vote à la Chambre des communes sur la question du génocide des Ouïghours, là.
Oui, c'est sûr que on aimerait bien, et moi particulièrement comme ministre de l'Agriculture, être capable de séparer les conversations et d'avoir des conversations diplomatiques qui soient différentes qu'une discussion sur le commerce, un commerce qu'on veut baser sur les règles et sur la science. Mais bon, c'est pas le cas avec tous nos partenaires et on sait que la Chine est particulièrement sensible à ce genre d'intervention. Alors, c'est sûr que notre priorité numéro un, c'est de voir les deux Michael revenir ici, au pays. Et ensuite de ça, ben oui, on veut être ferme dans notre dénonciation des abus quand il s'agit des droits de la personne. Et en même temps, on voudrait être reconnu pour la grande qualité de nos produits et de pouvoir continuer à faire du commerce basé sur la science et sur les règles et non de mélanger les dossiers.
Sans mélanger les dossiers, on peut dire que ce sera un tout qui sera difficile à réaliser, là.
Oui, c'est un exercice extrêmement délicat.
Le secteur laitier, bien, il y a des producteurs qui sourient parce qu'ils ont commencé à recevoir les chèques, la deuxième portion des compensations qui avaient été promises là, pour l'entrée de fromages étrangers sur le marché canadien. De ce côté-là, quels sont les échos que vous avez de l'impact là, des fromages, justement, des livraisons étrangères sur le marché canadien?
Bien, je dirais que ça va comme on s'y attendait. Les Européens particulièrement remplissent les quotas. Donc, les quantités prévues de fromage européen entrent au pays. Par contre, on remarque pour ce qui est de l'accord avec la zone transpacifique, les quotas dans le secteur laitier ne sont pas utilisés totalement. Et puis, ben, nous, on a tenu notre promesse. C'est 1,75 milliard de dollars qui devait être versé sur 8 ans au départ. On a resserré l'échéancier pour le verser sur 4 ans. À nos producteurs laitiers. Donc, le 3/4 d'entre eux ont reçu leur deuxième versement cette année. Ils savent déjà combien ils vont recevoir en 2022 et en 2023. Et ensuite de ça, on verra aussi à compléter avec les compensations pour l'accord avec les États-Unis et le Mexique. Là, ce sur quoi je travaille en ce moment et très bientôt, je vais être en mesure de déployer les programmes de compensation pour les producteurs de volailles et d'œufs. C'est une question, je dirais, de j'oserais, moins de quelques mois. J'espère que ça se compte en semaines, mais c'est très bientôt qu'on pourra déployer nos programmes pour les producteurs de volailles et d'œufs. Et par la suite, mon objectif, c'est d'aller vers les transformateurs aussi, de produits sous gestion de l'offre qui subissent des effets là, suite à la signature de ces accords.
Je me permets de revenir un peu sur le lait. Il y a eu toute la question ces dernières semaines de l'utilisation de certains aliments à base d'huile de palme ou de dérivés d'huile de palme. Est-ce que du côté fédéral, il serait possible dans la loi de préciser des choses à cet usage-là? Par exemple, ne serait-ce que d'indiquer obligatoirement l'utilisation de tels produits?
Bien, vraiment, au niveau fédéral, ce qu'on va réglementer, ce sur quoi on porte une très, très grande attention, c'est quand il y a un impact sur la santé de la personne, du consommateur, ou s'il y a un impact, un risque sur la santé de l'animal, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Alors, non, je vous dirais qu'il n'y a pas, à moins que la science nous démontre que ça peut présenter un risque pour la santé, ce n'est pas notre intention d'intervenir. Donc, à partir de là, ça appartient vraiment à l'industrie de prendre la décision. Et aux consommateurs aussi, de prendre le temps de bien aussi comprendre la nuance entre le produit qui l'huile de palme versus un produit dérivé qui est un déchet. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses aussi comme consommateur et ne pas condamner trop facilement nos producteurs qui font d'énormes efforts pour avoir une agriculture toujours plus durable.
Est-ce que vous avez pris contact ou est-ce que les gens de la nouvelle administration américaine vous ont contacté? Est-ce que vous avez commencé des échanges avec la nouvelle administration Biden?
Oui, donc ce matin, j'ai eu ma première rencontre virtuelle avec le secrétaire à l'agriculture, M. Vilsack. Ça a été une excellente discussion. C'est un plaisir de voir aussi à quel point nos priorités sont bien alignées, de vouloir faire beaucoup d'efforts justement au niveau de la protection de notre environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de reconnaître que notre agriculture et toute la transformation qui vient avec, c'est un secteur qui est extrêmement intégré. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on produit d'un côté, on transforme de l'autre et on revient consommer de l'autre côté de la frontière. Donc, nos producteurs et nos transformateurs travaillent vraiment de très, très près. Alors, c'est important qu'on fasse attention d'éviter les barrières qui pourraient se dresser entre nous parce que c'est vraiment ensemble qu'on est le plus fort et ensemble aussi quand il s'agit de défendre le commerce basé sur la science et basé sur les règles, comme je vous disais tout à l'heure. C'est bon d'avoir les États-Unis de retour à la table quand on parle de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Alors, c'est important qu'ils soient là avec tout leur poids pour plaider pour du commerce basé sur les règles.
Ça ne veut pas dire, même si les relations sont peut-être plus faciles maintenant, ça ne veut pas dire que tous les dossiers vont automatiquement se régler, là.
Non, on s'entend, les Américains demeureront toujours des partenaires qui sont durs en affaires, mais je crois qu'avec l'administration Biden, on peut s'attendre à un partenaire qui est aussi respectueux des ententes qu'on a signées. Et s'il y a des discussions à avoir, s'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, on va être capable de s'asseoir et d'avoir une conversation qui va être basée sur des arguments solides, qui sont basés sur des informations, des données probantes, sur la science. Alors d'avoir ce partenaire-là avec qui on peut avoir une discussion et qui peut être dure, mais qui va être juste. Alors c'est un peu ça à quoi je m'attends avec eux.
En terminant, Mme Bibeault, à la Chambre des communes, les partis d'opposition ont déposé des projets de loi, là, projet de loi C-208, C-216, concernant, entre autres, la relève agricole, concernant la gestion de l'offre, protection de la gestion de l'offre, bon, etc. Est-ce que ce sont des projets de loi qu'éventuellement, vous pensez que le Parti libéral pourrait, le gouvernement libéral pourrait appuyer ces projets de loi?
Bien, ça pourrait varier d'un projet à l'autre, mais il faut toujours être prudent quand on parle de projets de loi privés déposés par l'opposition. Souvent, on fait beaucoup de chemin sur le titre du projet de loi, alors que comme gouvernement responsable, on doit vraiment prendre la peine d'étudier le contenu du projet de loi et de s'assurer que c'est pas juste un exercice de communication, mais que vraiment les fondements sont bien, bien solides. Mais par exemple, pour ce qui est de la question du transfert intergénérationnel, je vous assure que la ministre Freeland, la ministre des Finances et vice-première ministre et moi-même, on est très engagés toutes les deux à trouver une solution pour faciliter les transferts intergénérationnels au sein des familles. Ça fait partie de nos lettres de mandat et c'est un sujet là, sur lequel on a eu plusieurs discussions récemment.
Et sur la gestion de l'offre, même s'il n'y avait pas appui au projet de loi comme tel, ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber la gestion de l'offre?
Absolument pas. Dans tous les cas, on croit sincèrement au bienfait ou au bon fondement du système de la gestion de l'offre. Depuis 2015, on vous disait on va défendre le système de gestion de l'offre. On l'a fait. Vous vous rappelez que le président Trump voulait démanteler le système. C'est vrai qu'on a cédé des parts de marché. Maintenant, ce qu'on vous dit et notre engagement, c'est de toujours protéger le système, mais aussi de ne plus céder aucune part de marché lors des prochains accords de négociation commerciale. Alors, vraiment, notre engagement va beaucoup plus loin à l'égard du système de la gestion de l'offre.
Bien, Madame Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale d'Agriculture et Agroalimentaire, merci beaucoup pour ces explications et puis au plaisir de se reparler bientôt.
Oui, au plaisir, merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Ici Lionel Levac. Je reviens sur le dossier des travailleurs étrangers candidats à l'immigration au Canada, dont aurait bien besoin le secteur de la transformation alimentaire. Tant à Ottawa qu'à Québec, on dit constater les besoins et être ouvert au recrutement de tels travailleurs. Mais en même temps, on insiste sur le fait que les négociations entre les deux paliers de gouvernement ne sont pas faciles. Au revoir.